Et tout de suite, vous retrouvez Anne Verdaguer pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Une prestation de serment contestée au Venezuela. Voilà le sommaire du jour. Le président Nicolas Maduro sera officiellement intronisé aujourd'hui pour un deuxième mandat. Mais il est de plus en plus contesté sur la scène internationale et puis dans un contexte, bien sûr, de crise économique au Venezuela qui semble plus que jamais incontrôlable. Donald Trump se rend aujourd'hui à la frontière avec le Mexique pour y défendre son projet de mur, alors que la fermeture partielle des administrations américaines entre bientôt dans un record de durée, 19e jour aujourd'hui de fermeture. Et cela commence à inquiéter les agents de notation. Les nouvelles haïtiennes avec Franz Duval et le pays qui se prépare aux commémorations ce samedi, 8 ans après le tremblement de terre qui a touché le pays. On fera un point sur l'avancement de la reconstruction.
Radio France Internationale, las voces del mundo.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro sera donc investi aujourd'hui pour un deuxième mandat sous fond de graves crises économiques, sociales et politiques. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Officiellement, Nicolas Maduro a été réélu haut la main avec 68% des suffrages le 20 mai dernier, mais ce résultat est contesté par l'opposition vénézuélienne et une partie de la communauté internationale qui appelle le chef de l'État à renoncer à la présidence.
Oui, tout à fait Anne. Les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et 12 pays latino-américains ne reconnaissent pas la réélection de Nicolas Maduro. Selon eux, le scrutin n'a pas rempli les critères démocratiques requis.
Et forte de ce soutien international, l'opposition vénézuélienne, qui a été inaudible ces derniers mois, reprend des couleurs.
Oui, l'Assemblée nationale, seule institution, comme vous le savez, entre les mains de l'opposition, se dit prête à restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays et elle est rejointe par la puissante conférence épiscopale. Les élus veulent créer un conseil de transition et organiser des élections libres, comme l'explique la députée Desiree Barbosa.
Le 10 et le 11 janvier, nous, les députés, allons nous réunir en session extraordinaire, ici à l'Assemblée ou dans la rue, pour montrer aux Vénézuéliens que nous sommes disposés à avancer constitutionnellement et sous la protection de la communauté internationale. Nous espérons pouvoir compter également sur le soutien des forces armées, qu'elles s'en tiennent à la Constitution et aux droits. Il est urgent d'arriver à une transition politique parce qu'en ce moment, Nicolas Maduro veut poursuivre sa farce. Il nous défie en se maintenant au pouvoir. Ce faisant, il viole une nouvelle fois la Constitution. Nous devons agir et nous sommes disposés à le faire.
Nicolas Maduro prêtera serment aujourd'hui devant le tribunal suprême de justice, proche du pouvoir, et non devant l'Assemblée nationale comme le voudrait la Constitution.
Et d'ailleurs, les membres du régime chaviste se montrent de leur côté impassibles devant les critiques.
Absolument. Tania Diaz est la vice-présidente de l'Assemblée constituante, une institution exclusivement composée d'élus pro-gouvernementaux. Elle souligne que la dernière présidentielle n'a pas seulement confirmé Nicolas Maduro au poste de président, mais par la même occasion, validé le projet politique de la révolution bolivarienne qui fête ses 20 ans cette année.
Un pays qui déclare ne pas reconnaître un processus électoral que les Vénézuéliens ont reconnu, c'est de l'ingérence. C'est contraire à la Charte des Nations Unies et cela vaut pour le Venezuela et tout autre pays du monde. À deux reprises, le peuple vénézuélien a majoritairement voté pour Nicolas Maduro. Mais à travers le président Maduro, le peuple a surtout voté pour le programme gouvernemental présenté par feu le président Hugo Chavez lors de sa dernière élection. C'était le même programme que Nicolas Maduro a présenté lors de sa première campagne électorale. Et puis Nicolas Maduro a renouvelé ce programme par le biais de sa réélection, ce plan du président Maduro. Nous en avons débattu, nous l'avons construit et enfin, à travers une élection libre, démocratique, ouverte et légitime, les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens l'ont approuvé.
Et dans le même temps, Stéphanie, des milliers de Vénézuéliens continuent à quitter leur pays chaque jour.
Depuis 2015, ils étaient quelque 2 300 000 à fuir l'hyperinflation, ainsi que des pénuries alimentaires et de médicaments. L'ONU prévoit même qu'en 2019, cet exode devrait encore s'accélérer. Andrés Dassoli a quitté le Venezuela en juillet 2017. À 26 ans, ce jeune économiste et étudiant en politique publique se dit découragé quant à l'avenir proche de son pays natal.
Moi, je ne pense pas que ça va se résoudre si facilement. On pensait que la crise sociale pourrait peut-être jouer un rôle déterminant. La crise sociale, ça touche tous les côtés de la population, pas seulement les moins favorisés. Mais le gouvernement ne fait rien pour résoudre cette crise. Tant qu'ils ont le contrôle de l'armée, ils vont être sûrs de rester au pouvoir. Et les militaires qui essayent de se soulever, ils sont en prison.
Pour cette journée d'investiture de Nicolas Maduro, les forces spéciales ont été déployées massivement dans les rues de Caracas et dans toutes les grandes villes du pays, Anne.
Merci Stéphanie Schuller et bonjour Romain Le Maresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous retrouve pour la revue de presse des Amériques et le Venezuela bien sûr à la une, avec bien entendu la cérémonie prévue tout à l'heure au cours de laquelle Nicolas Maduro doit prêter serment pour un second mandat.
Oui, et peu de personnalités politiques et de chefs d'État sont venus assister à cette cérémonie. Le quotidien proche du pouvoir, Ultimas Noticias, dresse la liste des invités, ou tout du moins de ceux qui ont accepté de venir. Des délégations russes, biélorusses, algériennes sont arrivées hier. Evo Morales, le président bolivien et son homologue salvadorien sont également sur place, tout comme des représentants du Congo, d'Irlande, d'Ossétie du Sud et du Belize. Le quotidien en ligne La Patilla précise qu'en plus, Daniel Ortega, le président nicaraguayen, et Miguel Díaz-Canel, son homologue cubain, participeront également aux festivités.
Romain, une grande partie de la communauté internationale ne reconnaît pas la légitimité de Nicolas Maduro à la tête de l'État vénézuélien, un président donc très critiqué également par une grande partie de ses concitoyens. Alors, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ?
Eh bien, difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que les autorités ont déployé tous les moyens dont elles disposent pour éviter tout débordement. C'est ce que précise El Nacional. Et ces mesures ne sont pas seulement prises à Caracas, mais également dans des États où de grandes manifestations s'étaient produites il y a encore quelques mois. Les autorités craignent une réaction de la population. Des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux, précise le quotidien, notamment à San Cristobal, qui fut l'épicentre de la contestation universitaire en 2014.
Romain, Nicolas Maduro entame ce second mandat alors que son pays traverse une crise sans précédent. Est-il à même d'inverser la situation aujourd'hui ?
Eh bien, en tout cas, ce n'est pas le chemin qu'il semble vouloir prendre, selon l'éditorialiste du Washington Post. Et si l'on s'en tient aux projections du FMI, l'économie vénézuélienne devrait continuer à dégringoler. Le Fonds monétaire international estime que l'inflation en 2019 pourrait atteindre 10 millions de pourcents du jamais vu. Et selon un rapport cité par le Washington Post de la Brookings Institution, un think tank basé à Washington, la crise migratoire devrait aussi se poursuivre. Si 4 millions de Vénézuéliens auraient déjà quitté le pays, selon ce rapport, 5 millions de Vénézuéliens pourraient encore fuir le pays en 2019. Une situation qui devient donc intenable. Même au sein de l'armée vénézuélienne, principal soutien du régime, la situation commence à poser problème. Selon le Washington Post d'ailleurs, le général Padrino López, actuel ministre de la Défense et un des hommes forts du régime, aurait demandé à quitter son poste en décembre dernier si Nicolas Maduro ne renonçait pas.
Autre sujet à la une des quotidiens aujourd'hui, le shutdown aux États-Unis. On atteint bientôt le record avec 19 jours de fermeture partielle pour les administrations fédérales. Le précédent record était établi à 21 jours. C'est en 96. Hier, le président américain a rencontré les chefs de file démocrates pour tenter de débloquer la situation, mais cette entrevue s'est encore soldée par un échec avec un Donald Trump qui a claqué la porte. Le sujet de discorde, bien sûr, le financement du mur de 5,7 milliards de dollars voulus par le président américain à Washington, la correspondance d'Anne Corpey.
Au lendemain du discours solennel du président, les dirigeants du Congrès étaient invités à la Maison-Blanche pour tenter de trouver une issue à l'impasse budgétaire. Mais la négociation n'a pas avancé d'un pouce. Chuck Schumer, chef de l'opposition au Sénat.
Malheureusement, le président s'est levé et est parti. Il a demandé au speaker, Nancy Pelosi, êtes-vous d'accord avec mon mur ? Elle a dit non, il s'est levé, il a dit alors nous n'avons rien à discuter et il est parti.
Le vice-président l'a confirmé, à l'issue de ce court rendez-vous, Donald Trump n'entend pas céder. Mike Pence.
Il n'y aura pas d'accord sans mur. Ce président, les républicains du Sénat et de la Chambre vont tenir bon jusqu'à ce qu'il y ait le financement et la réforme nécessaire pour mettre fin à cette crise sécuritaire à la frontière. À ce moment-là seulement, la paralysie partielle de l'administration fédérale cessera.
Sur Twitter, le président a qualifié la rencontre de totale perte de temps. J'ai dit bye bye, rien d'autre ne fonctionne, a-t-il simplement commenté. Anne Corpet, Washington, RFI.
Alors Romain, au lendemain de ce rendez-vous écourté entre démocrates et le président républicain, comment réagit la presse aujourd'hui ?
Eh bien, ce dernier épisode en date a déjà des répercussions au sein du camp républicain. Détail ce matin le Washington Post. Le quotidien annonce que 8 élus républicains de la Chambre des représentants ont décidé de soutenir l'initiative démocrate visant à rouvrir partiellement certains services fédéraux sans le déblocage des crédits pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique. La presse américaine qui, dans son ensemble, critique la manière de faire de Donald Trump.
Une presse qui commence à regarder de plus près le coût de ce shutdown, Romain.
Oui, et selon la revue Politico, cette fermeture partielle coûterait pas moins $1 milliard par semaine. Un shutdown qui commence également à préoccuper sérieusement les agences de notation, toujours selon Politico. Fitch a par exemple annoncé hier ne pas exclure de réduire la note de crédit américaine, ce qui serait une première. Du coup, les élus démocrates de la Chambre des représentants multiplient les initiatives avec des projets de loi pour tenter de rouvrir certains services, selon le New York Times. Des projets de loi qui, s'ils sont validés à la Chambre des représentants, ne le seront pas par le Sénat, majoritairement républicain. Mais en agissant de la sorte, les démocrates espèrent que l'opinion publique américaine va se rallier à sa cause. Un pari risqué face à un président qui ne semble pas prêt à renoncer à son idée de construire un mur à la frontière avec le Mexique.
Et justement, Romain, Donald Trump doit se rendre aujourd'hui à cette frontière avec le Mexique pour défendre son projet de mur, plus précisément dans la ville de McAllen, au Texas, où se rendra le président. Notre envoyé spécial, Éric Desalves, a rencontré des habitants fervents soutien de Donald Trump, qui traquent eux-mêmes les migrants le long de la frontière avec le Mexique. On écoute son reportage.
Dans son vieux pick-up, Rusty roule au pas le long de la barrière métallique sur la frontière mexicaine. Ce retraité texan traque les migrants sur sa propriété. En cas de problème, deux fusils sont posés près du levier de vitesse.
Je préférais ne pas avoir à le faire, mais je n'ai pas peur de les utiliser.
À McAllen, au Texas, son terrain est situé au bord du fleuve Rio Grande, frontière naturelle entre Mexique et États-Unis, régulièrement traversée par des clandestins. Avec son ami David, policier retraité, il prête main forte aux douaniers pour leur parer la route.
Il y a deux semaines, 25 personnes ont essayé de passer un peu plus bas. Nous avons essayé de les arrêter, mais ils avaient trop d'avance sur nous. Ils ont réussi à nous échapper.
Les deux hommes soutiennent fermement Donald Trump et son projet de mur anti-immigration, indispensable selon eux à la sécurité des États-Unis.
Pour les empêcher de passer, il nous faut un mur, mais les démocrates refusent. Pourtant, dans le passé, les démocrates ont voté pour construire une barrière. Depuis que Trump est au pouvoir, soudain, ils ne veulent plus. Ils font marche arrière, ils disent que c'est immoral. C'est un jeu pour eux.
David et Rusty espèrent que Donald Trump finira par convaincre les démocrates de débloquer 5 milliards pour débuter la construction du mur. Un mur que le président américain vient défendre aujourd'hui dans leur ville de McAllen. Éric Desalves, McAllen au Texas, RFI.
Voilà, et pour finir sur ce dossier concernant le mur que veut construire Donald Trump à la frontière avec le Mexique, eh bien sachez que le fils aîné de Donald Trump a de son côté suscité des réactions outrées en comparant l'efficacité du mur voulu par son père à un enclos de zoo, a-t-il écrit sur Instagram. Affaire à suivre.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on retrouve Franz Duval du Nouvelliste pour les informations haïtiennes. À la une aujourd'hui, plusieurs événements sont prévus ce samedi pour marquer les commémorations du tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Bonjour.
Bonjour
Franz.
Dans
moins de 24 heures, Haïti va s'arrêter pour se souvenir du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Depuis quelques années, la commémoration est devenue une affaire personnelle, tant les autorités restent dans l'ombre. Pour le 9e anniversaire du séisme de 2010, qui avait fait plus de 200 000 morts et détruit une bonne partie de Port-au-Prince, le gouvernement haïtien prévoit tout simplement de procéder à une offrande florale à Saint-Christophe, lieu où la plupart des personnes tuées par le séisme ont été enterrées, à la sortie nord de la capitale. À moins de 24 heures de la date souvenir, aucune initiative de la société civile n'a été annoncée non plus. Si les églises ouvriront leurs portes pour des messes, les manifestations du souvenir seront surtout familiales et privées.
Alors Franz, la reconstruction à Haïti, parlons-en justement, elle peine à avancer depuis 9 ans.
Il y a encore des chantiers en cours au centre-ville de Port-au-Prince 9 ans plus tard, particulièrement pour d'imposants édifices publics. Les constructions privées dans les quartiers résidentiels sont achevées depuis quelque temps. Les terrains où on voit encore des vestiges du séisme ne font l'objet d'aucun projet. Au centre-ville de Port-au-Prince, la débrouille est le maître mot. Il faut dire que les principaux commerces ont émigré vers Delma ou Pétionville, dans la banlieue de la capitale. Le 12 janvier 2018, le président Jovenel Moïse avait procédé à la pose de la première pierre pour la reconstruction du palais national détruit lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Pour le moment, on n'a pas encore pu compléter le concours d'architecture pour choisir le projet à exécuter.
Et puis la rentrée politique, Franz, ce sera dans quelques jours avec un premier bilan de l'année 2018.
Le lundi 14 janvier, députés et sénateurs haïtiens procéderont à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2019. Cette séance en Assemblée nationale sera le premier acte qui mettra fin aux vacances de Noël et de fin d'année. À cette occasion, le Premier ministre présentera le bilan des activités de son gouvernement et le président de la République fera l'exposé général de la situation du pays. Pour ce qui est du bilan des deux branches du corps législatif, le Parlement haïtien s'est habitué à en être orphelin, comme ce fut le cas au mois de septembre 2018, lors de la fermeture de la session de travail des députés.
Merci Franz Duval du Nouvelliste. Le Nouvelliste à retrouver, je vous le rappelle, sur www.lenouvelliste.com. Et c'est l'heure de retrouver le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, la Soufrière, le volcan de la Guadeloupe, tremble de plus en plus souvent.
Oui, pas moins de 70 séismes enregistrés en début de semaine. Alors ça finit par se savoir évidemment, même si ce sont des séismes trop légers pour être ressentis par la population. Et la population commence tout de même à s'inquiéter dans le sud de la basse-terre de la Guadeloupe. Franck Aristide.
Une séquence de 70 séismes, tous de magnitude inférieure à 1 sur l'échelle de Richter et situés à 2,5 km de profondeur, aucun n'a été ressenti. C'est le deuxième épisode mouvementé de la vieille dame en très peu de temps. Déjà le mois dernier, des variations soudaines et pulsatoires de l'activité des fumerolles avaient été observées sous les cratères sud-central et sud-nord. Ce type d'instabilité à ces endroits-là était une première. En novembre 2018 également, pas moins de 871 tremblements de terre d'origine volcanique avaient été enregistrés à ces profondeurs ou un peu plus en surface. Il s'agit là du signe d'une évolution du volcan. Depuis maintenant un an, un processus cyclique d'injection de gaz magmatique profond entraîne surchauffe et surpression avec des débits de plus en plus importants. Pour autant, pas de quoi s'alarmer pour l'instant. Selon les spécialistes, la probabilité d'une activité éruptive à court terme est faible, mais la vigilance reste de mise puisque que l'Observatoire volcanologique et sismologique ne peut pas non plus exclure l'hypothèse d'une intensification des phénomènes dans le futur.
On part du sud de la basse-terre de la Guadeloupe, on prend en plein sud et on arrive à Marie-Galante, l'île de Marie-Galante, toute ronde, la Grande Galette comme on l'appelle là-bas. Et depuis 3 semaines, elles sont de retour sur les rivages de la Galette. Elles, ce sont bien sûr les algues sargasses. Près de 800 mètres cubes de ces algues sont désormais enlevés chaque jour, car évidemment, il faut les ramasser rapidement, car après, elles pourrissent. Jean-Claude Maes est le premier adjoint de Capesterre de Marie-Galante. Il est au micro de Josiane Champion.
Tous les matins, c'est mon cauchemar. Chaque fois que je descends, travaille, je regarde l'océan, je vois les algues qui descendent. On les a quotidiens. C'est les habitants de Capesterre, je dirais. C'est énorme. C'est vrai que les gens ne le ressentent pas parce qu'on les ramasse tous les jours, mais si on les laissait, c'était invivable. Même en mairie, là, vous pouvez pas rester.
En termes de coûts?
On dépasse les millions d'euros. On a commencé en 2018 depuis le mois de février-mars et actuellement, on dépasse les millions d'euros déjà. Et la nouvelle vague, on est à peu près à 130 000 pour 15 jours, hein. Uniquement sur le privé. Parce que je fais pas le décompte des charges du personnel de la commune et de la commune des communes. Parce que nous aussi, on a beaucoup de peine avec les engins qui vont en mer. C'est des réparations presque tous les 15 jours aussi. Il faut changer les pièces et c'est un coût énorme.
Les algues brunes, un sujet dont on n'a pas fini de parler manifestement dans la Caraïbe. Bon après-midi Anne, à demain.
Et bon après-midi à vous également Benoît Ferrand. À demain, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr. Je vous signale à ce propos que vous pouvez retrouver dans son intégralité l'interview qu'a fait Romain Lemaresqué de la première vice-présidente de l'Assemblée constituante du Venezuela. Et ça à l'occasion du prêtage de serment du président vénézuélien. Donc ce sera sur www.rfi.fr dans la rubrique Amérique. Merci d'écouter RFI. On se retrouve demain, même heure, 14h10, heure de Paris, midi 10 en temps universel.
Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint nous présente une émission spéciale consacrée à Agatha Christie à l'occasion du 43e anniversaire de sa disparition avec une double actualité littéraire. Un beau livre illustré d'Anne Martinetti sur les traces d'Agatha Christie et à ses côtés l'essayiste Pierre Bayard qui nous propose un texte passionnant intitulé « La vérité sur 10 petits nègres ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Aujourd'hui, à partir de 13h30 TU.
RFI.